Bonjour à tous. Nous voulons ouvrir nos Bibles et méditer ensemble la parole du Seigneur. Mais avant cela, nous allons prier. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité et elle nous parle ce matin. Que cette parole, Seigneur, puisse prendre place profondément dans nos cœurs. Et nous te prions de nous aider à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, notre Sauveur, ton bien-aimé. Amen. Oui, avant d'ouvrir nos Bibles, frères et sœurs, il y a, je crois, 3 ans et demi ou 4 ans, on a été invité, moi et certains frères, on a été invité par un frère chez lui à la maison. C'était en été. Il faisait beau et on s'est mis à l'ombre sous un arbre, un pommier. Le frère a fait le barbecue comme il est d'habitude en été et après avoir mangé, le frère a pris une perche et il a fait tomber quelques fruits de pommes en guise de dessert. On a eu des pommes. Et le frère n'arrêtait pas de nous demander. C'est bon, c'est très bien les pommes, c'est bon. Il était fier du fruit de son arbre. Très fier. Et ce matin, nous voulons parler aussi d'un arbre. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Marc, chapitre 11, le verset 12 à 14. Et ensuite, nous lirons encore le verset 20 à 22. Donc, Marc, chapitre 11, le verset 12 à 14. Et ensuite, toujours Marc 11, le verset 20 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Jésus lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Nous passons au verset 20. Le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, le contexte de ce passage concerne principalement la nation d'Israël, le peuple juif. Et le concept, donc le contexte aussi parle du jugement de Dieu qui allait venir sur ce peuple. Mais nous pouvons aussi tirer beaucoup d'enseignements pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements pour nous que nous pouvons tirer de ce texte. Dans ce texte, le Seigneur Jésus attire l'attention de ses disciples sur la différence entre l'apparence et la vraie foi. Et j'essaie un peu de chercher dans le dictionnaire ce que signifie l'apparence. j'ai trouvé ceci. L'apparence, c'est l'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. L'apparence, c'est l'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. Oui, le figuier, notre arbre, de ce passage, de ce texte, n'était pas ce qu'il semblait être. Cet arbre ne reflétait pas vraiment la réalité. Il avait une autre apparence. Ses feuilles promettaient quelque chose que le figuier ne pouvait offrir. Nous lisons dans l'évangile de Marc, le passage que nous venons de lire, que après l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, Jésus-Christ, notre Seigneur, quitte Jérusalem et se dirige vers Béthanie. Et nous connaissons très bien ce village de Béthanie. Si nous nous souvenons bien, c'est le village de Marie, Marthe et Lazare. Le Seigneur se dirige vers Béthanie avec ses disciples. Et chemin faisant, il a eu faim. Et il aperçoit de loin un arbre, un figuier. Dans d'autres versions, il est dit un figuier avec beaucoup de feuilles. Mais quand Jésus s'est approché de cet arbre, de ce figuier, il réalisa que le figuier ne porte pas de fruits. Et le manque de fruits a provoqué sa malédiction. Parce que la Bible dit que Jésus a maudit cet arbre. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il sait tout. Hein? Il sait tout en avance. Jésus savait qu'il ne trouverait pas de fruits. Jésus savait qu'il ne trouverait aucune figue sur l'arbre avant même de regarder. Mais si Christ a utilisé ces figuiers, cet arbre, c'est dans un autre but et non pour satisfaire sa faim. Ce figuier a été utilisé par Jésus-Christ dans un autre but. Et non dans le but de satisfaire sa faim. Vous savez, le figuier et la vigne sont souvent utilisés dans la Bible pour parler de la nation juive, pour parler du peuple juif, pour parler de la nation d'Israël. Et dans la parabole du figuier, dans Luc, ne cherchez pas, je vais lire pour vous, dans Luc chapitre 13, dans cette parabole, le peuple juif est comparé à un figuier qui a été planté dans un terrain favorable, dans un terrain fertile. Luc chapitre 13, à partir du verset 6, il est dit ceci. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » La pensée ou l'idée de cette parabole, c'est que il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Et si le figuier ne donne pas de fruits à l'avenir, alors qu'est-ce qu'on fait? Il sera coupé parce qu'il occupe la place, il occupe la terre inutilement. La nation juive a toujours été comparée au figuier. Et Jésus-Christ s'est présenté à cette nation, à ce peuple, comme le Messie. Mais il a été rejeté. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas impressionné par l'apparence extérieure. L'homme se laisse facilement impressionner et peut faire des choix en s'appuyant que sur l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas les apparences ou l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ce figuier était un arbre fruitier que de nom. Son apparence était trompeuse. Un bel arbre avec de belles feuilles. Mais ce n'était qu'un figuier de nom. Il avait l'apparence d'une vie abondante parce qu'il y avait beaucoup de feuilles. Mais tout ce qu'il avait, c'était pour lui-même. Tout ce qu'il avait, cet arbre, ce figuier, c'était pour lui-même. Toutes ces feuilles, c'était pour lui-même. Et rien, rien pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas de figuier, pas de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ, que de feuilles pour lui-même. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes ou certaines personnes sont comme ça. Ils ont une bonne apparence, ils donnent une belle apparence. Ils ont même les honneurs aussi, hein, suite à leur apparence. Ils reçoivent beaucoup de choses, beaucoup d'honneurs à cause de leur apparence. Et rien, rien pour Jésus-Christ, rien pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien. Oui, de belles feuilles peuvent cacher la nudité aux yeux des hommes, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Et ce n'est pas la première fois que la Bible parle de feuilles du figuier. Nous les trouvons, ces feuilles de figuier, pour la toute première fois à la création, dans le jardin d'Éden, au commencement. Adam et Ève ont utilisé les feuilles de figuier pour faire quoi? Pour couvrir leur nudité quand ils ont péché contre Dieu dans le jardin d'Éden. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse, chapitre 3, le verset 7. On peut commencer au verset 6. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Oui. De belles feuilles peuvent cacher la nudité aux yeux des hommes, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dès le commencement, nous voyons que les feuilles de figuier ont été utilisées pour cacher quelque chose à la vue de Dieu. Bien que Dieu le voyait. Mais attention, frères et sœurs, cela ne voudrait pas dire que le figuier est toujours censé symboliser quelque chose de mauvais ou de mal. Non, loin de là. Et quand nous lisons encore la Bible, nous voyons que le figuier et surtout son fruit, les figues, sont aussi utilisés dans la Bible comme symbole de prospérité et de bénédiction en Israël. Nous ne disons pas que le feuille de figuier symbolise toujours le mal. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Mais nous disons que ces feuilles ont été utilisées pour la toute première fois dans le jardin d'Éden par Adam et Ève pour cacher leur nudité devant Dieu. Donc ce figuier que Jésus a maudit était trompeur, car ces feuilles promettaient quelque chose que l'arbre ne pouvait offrir, de belles feuilles. Et en s'approchant, on était sûr de trouver quelque chose de fruit, mais Jésus-Christ n'a rien trouvé. Quand nous lisons le verset 12, il est dit ceci, que le figuier était à l'écart et que le figuier était remarquable à l'œil. De loin, cet arbre avait l'apparence d'avoir des fruits et a attiré l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet arbre, ce figuier, avait reçu tout dont il avait besoin pour grandir, pour croître. Il était bien situé. Il poussait dans un sol très bon. Et nous pouvons même dire, continuer à dire, qu'il a profité du soleil et de la pluie. Pourtant, il était stérile. Malgré tout ce qu'il profitait, malgré tout ce qu'il avait, il est resté stérile. Et la nation juive, le peuple juif, était exactement comme ce figuier stérile. Ils avaient l'apparence d'avoir la vie spirituelle, mais ils n'avaient pas de fruits spirituels dans leur vie. Souvenons-nous de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, un peu plus haut. Donc. Souvenons-nous de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus fut accueilli par une foule immense qui criait. Et cette foule criait quoi? Glorifiez. Louez le Seigneur. Et cette foule, qu'est-ce qu'elle disait? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Voilà ce que cette foule disait. Ces Juifs, ce qu'ils disaient. Mais plus tard, devant Pilate, quelques semaines après, ou quelques jours après, devant Pilate, cette même foule continuait toujours à crier. Mais elle disait autre chose. Qu'est-ce qu'elle disait devant Pilate? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Hosanna s'est transformé à crucifie-le. Oui, le Seigneur Jésus-Christ connaissait leur cœur. Il savait à quel point leur adoration n'était pas vraie. Ils savaient à quel point leur adoration n'était que superficielle, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, le Seigneur a déclaré, a dit dans Ésaïe 29, concernant ce peuple, ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Ésaïe 29 au verset 19, verset 13, pardon. Le Seigneur a dit ceci, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà ce que le Seigneur disait de ce peuple. Frères et sœurs, faisons attention quand nous venons au Seigneur. Faisons attention quand nous adorons notre Seigneur. Est-ce que notre adoration, notre louange est une vraie adoration, est une vraie louange? Ou cela ne vient que de nos lèvres et que notre adoration, comme nous l'avons faite ce matin, est-ce que notre adoration vient du fin fond de notre cœur? Parce que l'Éternel a reproché ce peuple. Il a dit que ce peuple s'approche de moi, mais il m'honore que de lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est lui qui honore, qui adore le Seigneur, qui est par du bout de lèvres. Et comme cet arbre qui a de belles feuilles, et qu'on regarde, oh là là, ce frère, cette sœur, vraiment en tout cas, elle adore vraiment le Seigneur. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence que tu donnes. Ce n'est qu'une apparence que moi je donne. Parce que le Seigneur, quand il voit, il dit, non, il s'approche de moi, mais il m'honore que de la bouche et des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Et l'Éternel a condamné cela. Nous voyons dans beaucoup de lieux aujourd'hui, dans ce monde, comment certaines personnes adorent leur Seigneur. Avec ceci, avec cela. Oui, c'est pas mauvais, adorer le Seigneur, mais est-ce que c'est une vraie adoration? Est-ce que cela vient vraiment du fin fond de notre cœur ou ce n'est que superficiel? Parce que le Seigneur voit tout, le Seigneur sait tout et le Seigneur connaît toutes choses. Ce peuple juif avait la parole de Dieu, ils avaient la loi de Moïse. Ce peuple avait les prophètes de Dieu. Ils ont eu beaucoup de prophètes. Ce peuple avait même le temple de Dieu. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour leur vie spirituelle. Mais ce peuple est resté stérile. Ce peuple n'avait aucun fruit spirituel. Parce que Dieu, le Seigneur, il voyait que le cœur, il ne s'arrêtait pas seulement au niveau de l'apparence. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. 7b dit ceci, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Il regarde au cœur. » Nous, les hommes, nous regardons ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur, notre Dieu, regarde au cœur. Faisons un pas en arrière. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus qualifie les scribes et les pharisiens de conducteurs aveugles et hypocrites. Pourquoi il les qualifie ainsi? Au verset 27, il est dit ceci. Le Seigneur Jésus leur dit ceci. Dans Matthieu 23 et le verset 27, il leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. » Voilà ce que le Seigneur dit. L'apparence, quand nous allons au cimetière, il y a de belles tombes. Hein? Ah oui, il y a de belles tombes. Certains ont même des mausolées, comme on dit, des mausolées. Très beau, très bien. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Que de la pourriture. Une bonne apparence, une belle apparence, mais à l'intérieur, rien de bon. Non seulement rien de bon, et rien de beau aussi. Oui, ces pharisiens et ces scribes, ils affichaient une apparence extérieure qui était différente de leur état d'âme. Vous connaissez les pharisiens? Ils gênaient. Ils faisaient la prière à haute voix devant tout le monde. Ils donnaient une apparence des gens qui sont vraiment spirituels, très, 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 très spirituels, des TTS, très, très spirituels. Mais devant Dieu, parce que Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voyait leur cœur, et quand Dieu voyait leur cœur, Dieu dit qu'il y a autre chose dans votre cœur. Il y a autre chose dans votre cœur. Souvenons-nous aussi comment Jésus-Christ a purifié les temples. Il entra dans le temple et trouva beaucoup d'activité dans le temple, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui se faisaient dans le temple, mais pas de justice, pas de fruits spirituels. Il ne trouva quoi? Que de feuilles, et il ne trouva aucune foi, rien du tout. Vous connaissez l'histoire. Jésus-Christ ne trouva rien du tout. Que des gens vêtus en blanc, comme on nous les décrit aujourd'hui, avec de longues barbes, qui donnent l'impression vraiment d'être très, très, très spirituel, mais qu'en fait, il n'y avait rien au-dedans d'eux. Que de belles feuilles, mais pas de fruits. Et Jésus-Christ leur a dit, quand il est entré dans le temple, il a dit, Jésus dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait de la maison de mon père? Vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors que pour lui, c'était correct, c'était exact, c'était ce qu'il faisait. Mais Jésus dit que non, vous avez fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Chers frères et sœurs, une église peut être impressionnante. Une église peut avoir peut-être pleine d'activités, de ceci ou de cela. On le voit aujourd'hui. Il y a des grandes églises impressionnantes. Mais que trouvera le Seigneur après une inspection minutieuse? Qu'est-ce que le Seigneur va trouver là-dedans? Des cavernes de voleurs? Trouvera-t-il seulement de belles feuilles ou trouvera-t-il des fruits spirituels dans ce genre d'église? Faisons attention, frères et sœurs. Nous sommes appelés à porter des fruits. Christ était attiré par ce feuille du figuier, mais n'a trouvé qu'un fruit. Le Seigneur veut que nous sachions qu'il cherche de véritables fruits spirituels dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut voir dans nos vies. Il ne veut pas voir autre chose. Le Seigneur ne veut pas avoir de bonnes apparences parce que les apparences sont trompeuses et douteuses. Mais le Seigneur veut voir des fruits spirituels dans nos vies. Une véritable foi qui confesse le nom de Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et qui vive selon la parole de Dieu. Et que leur vie, dans leur vie, ils donnent la gloire et toute la gloire à leur Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. L'arbre avait de belles feuilles, mais ce n'était que pour lui-même. Il n'y avait rien pour le Seigneur. Est-ce que dans ta vie, dans ma vie, tout est pour moi-même et il n'y a rien pour le Seigneur? Beaucoup de gens, ils prennent tout, ils font tout pour eux-mêmes, pour leur gloire. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Dieu ne partage jamais sa gloire. Nous avons un Dieu qui est jaloux. Dieu veut que toute la gloire puisse revenir à lui et à lui seul. Mais qu'est-ce que nous voyons de foi? Les gens, ils reçoivent tout pour eux et rien pour le Seigneur. Et Jésus-Christ a condamné, a maudit cet arbre. Combien d'entre nous, aujourd'hui, ont l'air de porter du fruit? Combien d'entre nous, aujourd'hui, avons l'air de feuilles extérieures, l'apparence qui attire toute l'attention? Mais quand Christ viendra et il examinera nos cœurs, trouvera-t-il du fruit? Trouvera-t-il du fruit? Matthieu chapitre 7, le verset 19 dit ceci: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean 15, 2 dit encore ceci: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le purge, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et quand nous lisons le verset 13, toujours du chapitre 11 de Marc, la Bible dit que Jésus-Christ, s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. D'autres diront, mais oui, mais ce n'est pas la faute à l'arbre, parce que ce n'était pas la saison de figues. Hein. Mais en fait, quand les feuilles apparaissent, c'est qu'il y a de fruits. D'autres disent que oui, les bourgeons apparaissent beaucoup plus tôt. Mais quand il y a des bourgeons, c'est qu'il y aura des fruits. Mais cet arbre, il avait de belles feuilles, parce que les belles feuilles apparaissent après. Mais il avait de belles feuilles. Normalement, automatiquement, on devrait avoir des fruits. Mais il n'y en avait pas. Jésus attendait quelque chose de l'arbre, que l'arbre pouvait donner. S'il y avait de feuilles sur l'arbre, il aurait dû avoir aussi des fruits. Et Jésus a maudit cet arbre à cause de son hypocrisie. À cause de son hypocrisie. Le manque de fruits n'était pas la raison de sa malédiction. Mais c'était l'apparence de ses feuilles, l'apparence que l'arbre donnait, l'apparence de cette que l'arbre donnait. De loin, on voit de belles feuilles, on sait déjà que cet arbre a des fruits, alors qu'il n'en avait pas. L'arbre faisait des promesses qu'il ne pouvait tenir. La réalité que Jésus-Christ a trouvée n'était pas à la hauteur de la promesse faite par le figuier. Lorsque nous avons l'apparence de piété, mais que nous ne portons aucun fruit, nous pouvons nous attendre à une visite ou à la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, apercevant de loin le figuier, il alla voir s'il va trouver le figuier. Et Jésus a fait cet effort d'aller voir s'il y a des fruits. Jésus a fait cet effort d'aller vers cet arbre. Et Jésus-Christ viendra également examiner nos vies. Il viendra également examiner nos vies et voir si nous portons des fruits. Frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour que nous puissions porter des fruits et que ces fruits demeurent. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour donner une apparence d'être enfant de Dieu, de donner une belle apparence d'être enfant de Dieu, mais il nous a sauvés pour que nous puissions porter des fruits. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a attiré l'attention de Jésus-Christ sur cet arbre qui a séché, la Bible dit, jusqu'aux racines, accomplissant ainsi ce que le Seigneur avait dit au verset 14. Là, nous voyons la puissance de Dieu sur la nature manifestée par Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ avait cette puissance sur toutes choses, même sur la nature. Rappelons-nous quand il a marché sur les eaux. Rappelons-nous quand il a apaisé la tempête. Jésus-Christ avait cette puissance sur toutes choses. Et la malédiction que Christ a prononcée sur ce figuier, pardon, c'était un symbole du jugement de Dieu sur son peuple. C'était quelque chose de prophétique que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé sur le peuple d'Israël. Quand Pierre a dit à Jésus-Christ que voici l'arbre a séché jusqu'aux racines, qu'est-ce que Christ a répondu? Le Seigneur a dit à ses disciples, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le Seigneur Jésus-Christ voulait leur faire voir l'importance de la foi au lieu d'avoir des tonnements sur ce qui est arrivé sur cet arbre. Parce qu'eux, ils se focalisaient seulement sur cet arbre. Ah, ce qui est arrivé sur cet arbre. Mais Christ voulait leur faire voir l'importance de la foi. Pourquoi? Parce que tout cela, les enfants d'Israël ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la foi en lui. Or, la parole de Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce n'était pas le cas de ce peuple. Oui. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté comme un sarment et se détache. Voilà, quand vous coupez une branche de son arbre, la branche va se déchaisser et puis va mourir en quelques heures. Et ce que le Seigneur dit ici, dans Jean 15, 6. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté comme un sarment et se dessèche. Et les hommes le rassemblent et le jettent au feu et ils sont brûlés. Frères et sœurs, pour finir, quand nous sommes sauvés, ou quand une personne est sauvée par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle doit croire en son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle croit en son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et elle doit porter des fruits, non pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de son Seigneur. Galates chapitre 5, verset 22, énumère beaucoup de choses qui constituent le fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » La foi est citée là-dedans, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons reçu ce dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne. Nous avons tout reçu de la part de notre Dieu. Tout ce que nous avons besoin pour bien marcher dans ce monde. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu plein d'amour, compatissant, lent à la colère. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, un Sauveur merveilleux qui s'est donné pour nous sur la croix. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour produire des fruits spirituels. Et il n'y aura aucune excuse pour nous d'être des figuiers stériles aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je vais finir par cette question. Quand Christ regarde nos vies, voit-il des fruits à sa gloire? Quand Christ regarde nos vies, voit-il des figuiers qui n'ont que de belles feuilles? Qu'est-ce que Christ voit quand il regarde ta vie? Qu'est-ce que Christ voit quand il regarde ma vie? Que de belles feuilles ou de fruits que lui a besoin? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Cette parole nous corrige, cette parole nous enseigne, cette parole nous instruit. Merci parce que tu es un père qui pense toujours à ses enfants et qui nourrit toujours ses enfants pour leur bien. Aide-nous, Seigneur, à porter des fruits dans nos vies. Nous comptons non pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur toi. Si l'Esprit que toi tu as mis en nous, le Saint-Esprit, Seigneur, qu'il nous aide dans toutes choses, Père de gloire. Merci parce que nous t'aimons. Merci parce que nous voulons que tu puisses trouver des fruits dans nos vies, des fruits qui vont donner gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.